Eh bien, nous allons ouvrir, frères et sœurs, la parole du Seigneur. Pour terminer tout ce cycle de l'été sur des hommes et des femmes de foi, on va lire une dernière fois, une histoire de foi, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Et au verset premier, sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Donc, nous avons besoin de demander à Dieu de nous aider dans la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Ah, Joshua arrive. Bon, on le fera plus tard, un petit peu plus tard. Je fais la lecture. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire des choses que Dieu a promises et qu'on espère. Et on a l'assurance, Hébreux 11. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont plu à Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est écrit il y a 2000 ans. Et on ne savait pas qu'à cette époque, la création était faite de choses invisibles. C'est écrit. Hébreux, toujours, chapitre 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, entre parenthèses de l'Égypte, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Et au chapitre 12, nous donc aussi. J'ai intitulé le thème de cette prédication « La foi de Jacob, de Joseph et de beaucoup d'autres ». Et les autres, c'est vous et c'est moi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Nous arrêtons la lecture ici. Amen. Je prie Dieu devant cette méditation de rentrée. Au commencement de cette nouvelle année, nous voulons te prier pour que ta parole soit toujours une lumière à nos pieds, une nourriture pour notre âme, une transformation perpétuelle de notre mentalité. Bénis ton Église qui écoute la parole, ton serviteur qui prononcera. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Nous avons ouvert la Bible. Que le Saint-Esprit nous fasse entendre son message pour l'Église aujourd'hui. Amen. Je suis allé deux fois à l'île de la Réunion. Il y a des Réunionnais parmi nous. Et quand on annonce un cyclone, une fois il y a eu un commencement de cyclone, j'ai vu des Réunionnais qui font provision d'eau, qui ferment portes et fenêtres, qui se barricadent. C'est ça, non? Les Réunionnais, ils ne voient rien venir encore. On leur a seulement promis qu'il y aurait un cyclone. Et ils sont certains qu'il y aura un cyclone, bien qu'ils ne le voient pas. et voilà, il s'y prépare. Je pense que c'est comme ça la foi. On a une assurance de quelque chose et on ouvre son cœur, on s'y prépare. Dieu nous a fait des promesses, c'est vrai ? Amen ? Magnifique ? La foi, c'est dire oui à ses promesses. C'est dire merci au Seigneur pour ses promesses. C'est faire de la place dans notre vie, parfois trop encombrée par les choses matérielles, pour que les promesses se réalisent en nous et en nos enfants. Amen. La foi, c'est pas seulement savoir que Dieu existe. Comme moi, je sais qu'il existe des îles qui s'appellent Okinawa. Vous connaissez ? Vous connaissez pas les îles Okinawa ? Je sais que ça existe quelque part, près du Japon. Je sais même que dans ces îles, c'est là où l'on vit le plus longtemps, le plus vieux du monde. Il y a des gens centenaires qui ont 110, 115 ans. Je vous avouerai que j'ai envie d'y aller. Enfin bref, je sais que ça existe. Mais je ne sais pas ce qui se passe là-bas. La foi, c'est savoir non seulement que Dieu existe, mais c'est savoir tout ce qu'il fait pour nous. C'est savoir qu'il est ici au milieu de son Église. Amen. Pour nous donner une vie qui ne dure pas 115 ans, comme à Okinawa, mais qui dure toujours. L'apôtre Jean voit dans l'Apocalypse le ciel ouvert. Il est même monté dans le ciel. Et là, il a vu Jésus. Et qu'a-t-il ? Que fait Jésus ? Il n'est pas couché dans son lit. Il n'est pas endormi dans son hamac. Il marche. Et l'apôtre Jean l'a vu marcher entre les églises, dans les églises, qui ressemblaient à des chandeliers. Jésus marche dans les églises comme une tournée d'inspection. Je crois qu'il marche au milieu de l'église de Rennes pour l'inspecter aussi. Et Jean nous dit, ses pieds sont comme du métal embrasé dans une fournaise. Autrement dit, ça va laisser des traces sur notre carrelage, dans notre cœur. Et Jean dit, sa voix, c'est comme des grandes eaux. Tenez, comme les chutes du Niagara. Autrement dit, on ne va plus entendre les bruits de la rue, les klaxons, on ne va plus entendre nos soucis, nos tracas, on ne va entendre que lui, parce que sa voix, elle est forte. On n'entendra que lui, pas les bavardages. Il marche, dit l'apôtre Jean. Ça veut dire qu'il veut nous conduire plus loin. Il veut nous emmener. C'est ça la foi. C'est regarder le Seigneur. Marcher vers lui, courir vers lui si nous nous sommes éloignés un peu durant les vacances. C'est marcher à sa suite, c'est le suivre. On a lu tout à l'heure un petit verset sur Joseph, fils de Jacob. Oh, il est vieux, il va mourir. Il a vraiment fini sa vie. Et il dit à ses frères, à ses enfants, à la famille, sur son lit de mort, parce qu'ils sont en Égypte, et qu'en Égypte, ça commence à se resserrer, la pression, la haine des étrangers. Il dit, je vais mourir, mais Dieu vous fera sortir d'Égypte. Et il dit, jurez-moi, vous me le jurez ? Vous ferez remonter mes os dans votre pays, la terre promise. Drôle, vous ferez remonter mes os. Alors on a embaumé Joseph. Joseph, c'est une momie. Je ne vous dis pas comment on faisait. Hein. Je vous fais grâce de certains détails. On a embaumé Joseph. C'était la seule façon de conserver ses os. Il n'avait pas, à l'époque, de Bible. Il n'avait pas d'écriture comme nous. Nous avons la Bible que nous lisons le matin, le soir, le midi. Ils avaient juste des os qui était déposé sûrement dans une tombe provisoire. Et peut-être qu'au fil des années, les enfants disaient « Papa, c'est quoi ces os ?» Ben, c'est les os de Joseph et on doit les ramener en terre promise. Ah bon, c'est quoi la terre promise? Comme ça, ils n'oubliaient pas. Joseph leur a donné la foi en leur disant, prenez soin de mes os et vous les ramènerez avec vous en terre promise. Joseph leur a donné la foi. Et à chaque génération, on se transmettait le message. J'imagine qu'il y avait chaque année peut-être, ou tous les 10 ans, tous les 20 ans, quelqu'un qui disait, maintenant c'est le frère Ruben qui va s'occuper des os de notre grand frère Joseph. Et on lui donne cette responsabilité pour 10 ans. Ah bon, quels os? Pourquoi? Ben, c'est pour remonter en terre promise. Le message était gravé dans leur cœur à cause des os. La foi, c'est une ferme attente. On attendait la sortie d'Égypte. La foi, c'est une persévérance. La foi, c'est une assurance que ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Il le fera. Et il faut conserver les os, mes frères. Enfin, conserver la Bible et la foi en Jésus-Christ. Je connais aussi un homme qui vraiment avait la foi dans la Bible, c'était Siméon. Vous connaissez Siméon ? Un jour, le Seigneur, le Saint-Esprit, lui a dit mystérieusement, dans son cœur, dans son oreille, il lui a dit, avant de mourir, Siméon, tu verras le Christ. Mais le Christ n'était pas encore là, il n'était pas encore né, on n'en parlait pas. Tu verras le Christ avant de mourir. Alors, ces années servaient de repère. Plus il vieillissait, et plus il disait, ça ne va pas tarder, je vais voir le Seigneur. Remarquez, moi je dis pareil aujourd'hui, hein. Pas vous. Plus je vieillis, plus je me dis, bientôt je verrai le Seigneur. Amen. Pas vous. À 80 ans, il devait se dire, ça ne va pas tarder. Je vais voir le Seigneur. Moi, je dis pareil, je n'ai pas encore 80 ans. Et puis le Seigneur, un jour, est venu dans les bras de Marie et Joseph. Et là, Siméon a vu, en effet. Alors après, il savait que sa vie ne serait pas très longue. Il avait vu le Seigneur. À nous, le Seigneur nous dit aujourd'hui, mes amis, je viens vous chercher, je reviens bientôt, je vous prendrai avec moi, je vous emmènerai chez moi. Vous y croyez dans ces promesses? Attendons-nous le Seigneur comme Siméon attendait Jésus tous les jours dans le temple? C'est ça la foi. La foi, c'est attendre celui qui reviendra du ciel pour chercher son Église qui est dans une terre remplie de flaques de sang, de tensions, d'épreuves, de difficultés. Faut pas l'attendre avec la panique. Faut pas l'attendre en laissant tomber nos études, nos engagements, nos responsabilités, nos devoirs envers l'Église, envers la famille. Faut pas l'attendre en vendant nos maisons et nos frigidaires. Nous l'attendons, d'après les proverbes, d'après les paraboles, en servant les autres, pour encourager les autres. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas 4 personnes. Ma femme, moi, et puis 2 parmi nous. Nous l'attendons en servant les autres. On l'attend avec nos frères. Il n'y a pas de Christ sans l'Église. C'est pas bien de dire ça, c'est pas biblique, c'est très mauvais. Il n'y a pas d'église sans Christ. La foi, c'est vivre avec les enfants de Dieu. C'est vivre avec tous ceux qu'on aime et parfois on a du mal à supporter. Amen. On doit s'accepter les uns les autres. Admettons quelqu'un qui vous invite et qui dit, je vous invite, mais surtout, je ne veux pas inviter vos enfants. Oh, ben dis donc. Puis surtout, je ne veux pas inviter votre femme. Oh ben dis donc, ça semblerait louche quand même, non? Alors parfois, il y a des gens qui disent, le Christ, oui, mais l'Église, la femme, bouf, les enfants de Dieu. C'est pas biblique, c'est anti-chrétien, ça. L'Église et le Christ sont inséparables. Amen. Comme un magnifique couple. Vous avez vu, j'ai lu aussi l'histoire de Joseph qui meurt aussi. Il y a beaucoup d'histoires de mort, hein. Jacob qui meurt, et avant de mourir, il est appuyé sur son bâton, il est très très âgé, il ne faut pas se moquer des gens âgés. Avant de mourir, il va rassembler tous ses enfants. C'est souvent, c'est rarement ce que j'ai vu, mais ça peut arriver. On rassemble les enfants autour du lit pour leur dire au revoir. Oh, c'est beau, hein, c'est très émouvant. Et lui, Jacob, il a donné une parole de Dieu à chacun de ses enfants. Une parole qui venait de Dieu, une parole qu'il fallait garder et transmettre aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, aux arrière-arrière. Parce qu'il avait confiance que cette parole allait les tenir, les stimuler, les protéger. Oui, je vous le rappelle, il y a 4 siècles, au temps des premiers protestants en France, le père, tous les soirs, à la veillée, devant l'âtre, le père lisait la Bible, les psaumes, les proverbes beaucoup, les évangiles. À l'époque, on disait que les parents étaient les lieutenants de Dieu. Les lieutenants de Dieu. Ils avaient du galon. Hein. Ils représentaient Dieu auprès des enfants et de tous les serviteurs de la maison. Il faut donner à nos enfants des enseignements. Amen. Que Dieu bénisse les écoles du dimanche. Que Dieu bénisse les parents qui transmettent la parole. En Chine, vous savez, dans les années 50, dans les années 60, il y a eu des années terribles en Chine. Vous le savez. Il y a eu la révolution. Et puis cette révolution, eh bien, ça a été qu'on a fermé les églises. On a persécuté les chrétiens. On leur faisait porter des pancartes dans la rue. « Je suis un chrétien. » Et puis on jetait sur eux toutes sortes d'objets. On a enlevé le Christ. Enfin, on a voulu enlever le Christ de la Chine. On a voulu enlever la parole de Dieu dans la Chine. Résultat. Vous savez lequel ? On ne savait plus où était le bien, où était le mal. Et la Chine est entrée dans une époque de corruption impensable. Mais aujourd'hui, il y a des dizaines de millions de Chinois, de Chinoises qui se convertissent à Jésus-Christ. Amen. Et vous savez ce qu'ils disent, ces millions. L'avenir de la Chine, c'est l'Évangile. Parce qu'une Chine qui n'a plus de repères avec l'Évangile, c'est une Chine perdue. Une France qui met de côté les valeurs chrétiennes et l'Évangile, eh bien c'est une France qui va dans l'abîme. Que Dieu nous préserve. Amen. La foi, c'est écouter ensemble la parole du Seigneur. Dans l'église, dans les maisons. Il ne faut pas avoir honte, mes frères, de prendre la Bible avec vos filles et vos fils. Le Seigneur veut nous parler, nous donner quelque chose. Que devons-nous faire? Si nous nous éloignons de la parole de Dieu, on s'éloigne de Dieu. On se refroidit dans sa foi. On se refroidit dans son amour pour Dieu. On a moins de courage, tout nous coûte, c'est dur. On se refroidit dans son attente. On n'attend plus grand-chose. Et Jésus dit, on bat les frères. On bat les frères qui travaillent. Si on s'éloigne de la parole de Dieu, vous connaissez ce texte de l'apôtre ? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qui il dévorera ? Il va choisir. Qui il va choisir ? Sûrement le pasteur, parce qu'il faut mieux prendre d'abord le... celui qui nous gêne un peu. Mais qui m'a encore dévoré ? Regardez les lions, enfin, regardez-les à la télévision. Ils dévorent la gazelle qui boite un peu, qui court moins vite. Ils dévorent celle qui est un peu, qui flanche un peu. Ils dévorent les chrétiens qui ne sont pas très affermis. Ils dévorent les chrétiens qui s'éloignent de l'église, qui s'éloignent de la parole, qui s'éloignent du bon berger. Le diable, c'est ainsi qu'il travaille. Vous le savez ? Cherchant qui ? Il faut bien qu'il fasse un choix, il ne peut pas tout manger. Il va prendre le plus faible, le plus accessible. Que Dieu nous protège. Que la parole de Dieu habite richement dans notre cœur et dans nos maisons. Amen. La foi, c'est ça. C'est apprendre à vivre avec Jésus, à l'école, au travail, dans notre église. Si on reconnaît que Jésus est partout avec nous, ça la foi, on va l'écouter, on va lui poser des questions, on va lui parler, on va même lui dire certains secrets, certains péchés secrets. On va avoir le courage de lui dire. On va même lui dire certaines souffrances secrètes que personne ne sait. On n'en parlerait jamais à ses enfants ni à son pasteur. Des souffrances cachées. Comme ce père qui va voir Jésus en lui disant « regarde mon fils, c'est mon fils unique. » Un esprit l'agite avec violence. « Seigneur, je te prie pour mon fils qui est violent, pour ma fille qui est violente avec nous, qui nous envoie promener comme si on n'était pas ses parents. » Terrible. Ça, c'est des souffrances cachées. La foi, c'est construire une vie de famille dans l'Église aussi. Parce que dans ma foi, je me dis, je crois que Jésus est au milieu de l'Église qui aime et qui aime les enfants de Dieu. C'est l'apôtre Jean qui dit ça, c'est pas moi. Je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Par conséquent, il faut qu'on fasse, nous, une belle vie de famille. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois qu'il faut qu'on achète, ça coûte pas très cher, mais je vous recommande cet achat. Il faut qu'on achète quelques kilos de sourire. Amen. Et puis, quelques tonnes de bonjour. Non? Ça coûte pas très cher, ça pèse pas lourd. Et puis, beaucoup de pardon aussi. Éviter les rancunes, avec une tête épouvantable. Et puis, de temps en temps, dire, Seigneur, je voudrais acheter, est-ce que je peux vous aider? Avez-vous déjà dit ça à quelqu'un? Avec un point d'interrogation. Est-ce que je peux vous aider? Et puis des merci. Oh là là, il en faut des merci. Et puis du respect. Et puis de l'attention sur les autres. Il nous faut acheter. Vous me direz, mes frères, vous n'êtes pas dans la ligne biblique, ça. Jésus ne vend rien du tout. Ce n'est pas un marchand, Jésus. Ah, ben je regrette. Il vend des choses. Dans une église de l'Apocalypse, une église de la fin des temps, Jésus a dit à Laodicée, je te conseille d'acheter de moi, chez moi, des vêtements blancs et un collyre. Oh, j'aimais pas les gouttes quand j'étais enfant, c'était terrible. Oh, un collyre pour oindre tes yeux, pour que tu vois. Je te conseille d'acheter. On dirait, mes frères, ça coûte cher ça, parce que nous, on n'est pas trop généreux avec le Seigneur. Ça coûte rien. Mais ça coûte quelque chose quand même. Ah, dites-nous ce matin, vous êtes ambigu. Ça ne coûte pas en niveau argent, bien sûr. Mais vous savez, quand on voit clair le frère et la sœur, ça peut coûter aussi un peu parce que ça nous oblige de réviser nos jugements sur les autres. Amen. Et puis ça coûte de prendre un vêtement blanc chaque jour pour être propre, pour être intègre, avec des paroles bien, des regards purs, des sentiments purs. Ça peut coûter. Mais le Seigneur nous demande de vivre ainsi chaque jour. Amen. La foi, mes amis, c'est pas une lampe qu'on allume le dimanche matin à 11h moins le quart pour l'éteindre à 11h un quart. La foi, c'est pas simplement quelques minutes par dimanche, puis après on la met sous le lit ou dans un seau, puis on ne s'en occupe plus. Jésus nous donne son évangile comme une parole qui doit rester allumée jour et nuit. Pour éclairer nos journées, éclairer nos maisons, notre quartier, nos relations de travail avec les inférieurs et les supérieurs, pour éclairer tous les jours de la vie. Vous êtes la lumière du monde. Amen. À Lyon, au mois de décembre, il y a toujours la fête des Lumières. Quelqu'un est allé déjà voir ? J'aimerais bien y aller un jour. La fête des Lumières. 1 million de personnes viennent en plus dans la ville de Lyon, c'est énorme, pour voir simplement les maisons, les quartiers, les églises, les façades, les monuments, tout éclairé de toutes les couleurs, avec des jeux partout dans les rues. Tout est dans la lumière qui transforme tout. On ne reconnaît plus Lyon. Ben moi, je crois que si nous sommes des lumières, on va attirer des gens aussi. Amen. Je crois que quand on a la foi dans le Seigneur, je crois que le Christ brille sur nous. Je pense qu'il nous transforme par sa lumière. C'est écrit dans l'Évangile, dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Celui qui a fait la première fête des Lumières, c'est le Seigneur. Il a mis le soleil, facile à faire, hein. Puis le soleil, il éclaire Pluton, Mars, Vénus, la Lune, la Terre. Oh, quel jeu de lumière, comme c'est beau. Regardez, vous êtes déjà allé au... Si vous n'avez pas été à Lyon, vous êtes allé voir le Mont Blanc. Peut-être une fois, peut-être pas du tout. Je l'ai vu une fois dans ma jeunesse. Et le soir, quand les vallées étaient dans l'ombre, c'était la nuit qui commençait, le sommet du Mont Blanc était tout éclairé, comme c'était beau. Et j'ai pensé, à l'époque je découvrais le Christ, j'ai pensé qu'aujourd'hui le monde s'assombrit de plus en plus, mais l'Église qui prend de la hauteur, qui vit dans la foi au Christ, elle reste illuminée pour éclairer les vallées sombres. Que Dieu nous donne ce grand ministère. Amen. Mais il faut se poser la question, je conclue par là, à qui j'apporte de la lumière? Vous êtes des flambeaux dans le monde, dira l'apôtre Paul, vous brillez comme des flambeaux portant la parole de vie, mais à qui j'apporte un peu de lumière? Cette semaine, Seigneur, aide-moi à éclairer un peu la vie à la maison, avec ma femme, mon mari, mes enfants. Aide-moi à apporter un peu de lumière à l'école. Vous m'écoutez, les enfants? Aide-moi à apporter aussi un peu de lumière dans l'église, à mettre de la douceur, de la patience, de la politesse, puis toutes sortes de petits services avec de la joie. Ça, c'est de la lumière. J'ai bien aimé, dans les épîtres de Paul, il y a toujours des petites choses, on se demande qu'est-ce que ça fait là, ça sert à rien, on se demande pourquoi Paul il a écrit ça, mais ça nous rend service. Quand Paul il écrit à Timothée, Paul va mourir dans quelques jours, il écrit à Timothée, puis il dit, apporte le manteau que j'ai léché chez Carpus à Troas, apporte le manteau et les parchemins et les livres. Ça ne me sert pas grand-chose à moi. Hein. Et Timothée, peut-être qu'il aurait dit... Chacun son boulot, Paul. Je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas un pigeon. Apporte le manteau et les livres et les parchemins. Et un parchemin, c'est très délicat, il faut faire attention. Il faut faire attention avec la vie des autres, avec la fragilité des autres. On est des parchemins fragiles. Être chrétien, avoir la foi, c'est faire attention à tout ça. J'ai tellement aimé dans l'Évangile cette petite chose de Jésus qui dit, il ne tombe pas un passereau, pouf, qui tombe par terre et qui meurt, sans la volonté de votre Père. Oh, pour un passereau, qui ne coûte rien du tout. Il faut que Dieu donne son avis, oui. Dieu donne son avis pour un moineau qui tombe, parce qu'il est trop vieux et parce que sa fin est arrivée. Faisons attention. Puis la foi... Quand on fait attention, la foi, c'est de la reconnaissance aussi. Sachons-nous dire merci. Amen. Amen. Pas si reconnaissant. J'ai beaucoup aimé quand Paul y dit dans l'épître aux Romains, « Saluez Priscille et Aquilas qui ont risqué leur vie pour sauver ma vie. Je leur dois beaucoup et les églises les remercient. Les églises les remercient. » Toutes les églises devaient écrire « Aquilas Priscille, merci pour Paul. Aquilas Priscille, merci pour Paul. Aquilas Priscille, merci pour Paul. » Nous resterions un petit peu froids. Donc bon. Sachons dire merci. Amen. Parce que tout ce que vous faites, c'est le Seigneur qui le fait à travers vous. Et quand je vous remercie pour les secours que vous me donnez, les encouragements que vous me donnez, en fait, je remercie le Seigneur. Eh bien voilà, je termine en vous disant, Seigneur, donne-nous la foi. Amen. Dans l'alpinisme, il y a toujours un premier de cordée qui s'accroche à la muraille, à la falaise, à la montagne. Il ouvre le chemin. Et notre premier de cordée, et nous on est attachés à lui derrière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il ouvre la route, Jésus. Ça avance pas vite. Les alpinistes, ce n'est pas des coureurs de fond. Hein. Ils ne font pas du 100 à l'heure. mais ils avancent. Et Jésus ouvre le chemin. La foi, c'est le suivre, porter les regards vers lui. C'est lui qui fabrique la foi. C'est lui qui donne la foi. Et avec la foi, vous triompherez du monde. Amen. Amen. Bénis, Seigneur, ce culte. Bénis, Seigneur, cette parole. Bénis nos cœurs, nos vies, nos familles, nos enfants, nos maisons. Que nous soyons des hommes et des femmes attentifs à tout. Qui non seulement croient, mais qui vivent leur foi, qui la vivent chaque jour dans les petits détails, à travers la charité, à travers le respect des autres, à travers des bonnes œuvres, des belles œuvres. Donne-nous de bien vivre ainsi ce que nous professons, parce que la vérité, ça se dit dans la charité. Aide-nous à vivre ces choses, Seigneur. Amen. Amen.